Campus 88.3 FM, vous êtes bien dans Médiathèque On Air. On est le 17 février, on est en direct de la médiathèque d'Orléans, comme à la numéro de Médiathèque On Air. Je suis avec Aurélie Suran. Bonjour Aurélie, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien.
Alors aujourd'hui, tu nous accueilles et tu accueilles également l'ensemble La Rêveuse à l'occasion en fait, de leur venue cet après-midi pour un atelier de musique ancienne. Bonjour l'ensemble La Rêveuse.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Florence Bolton et Benjamin Perrault. Alors en effet, vous nous faites le plaisir de donner un atelier cet après-midi ici à l'auditorium, au quatrième étage de la médiathèque. Ce n'est pas l'auditorium, non, on est en plein dans la section musique, photo, vidéo, documentaire et tout ça. Donc en effet, vous êtes dans votre élément puisque eh bien, il y aura des instruments. Voilà, on est dans la musique et particulièrement en fait dans le partage de la musique, ce qui vous intéresse beaucoup. Alors Florence Bolton et Benjamin Perrault, vous avez fondé La Rêveuse, un ensemble composé de musiciens solistes qui travaillent sur les patrimoines artistiques des 17e et 18e siècles, des périodes qui foisonnent d'expériences et d'inventions artistiques de toutes sortes. Alors Florence Bolton, vous êtes musicienne bien sûr et vous commencez la musique à l'âge de 7 ans avec le clavecin et la flûte à bec, et c'est finalement la viole de gambe à laquelle vous allez consacrer votre carrière. Et vous, Benjamin Perrault, vous avez étudié la guitare classique et vous avez choisi de vous consacrer essentiellement à la musique ancienne en étudiant le théorbe, une sorte de grand luth créé en Italie à la fin du XVIe siècle. Vous vous consacrez aux luths également et à la guitare baroque. Alors vous avez tous deux participé à de nombreux enregistrements discographiques et vous vous êtes produits dans de nombreux festivals en France ainsi qu'à l'étranger. Et en 2004, vous avez fondé ensemble La Rêveuse. Ce qui vous rassemble, entre autres, c'est les recherches historiques que vous menez et qui aboutissent à la création de projets protéiformes. On va parler de ces différents projets au cours de l'émission. Vous travaillez souvent à créer des liens entre différentes pratiques artistiques et vous avez notamment travaillé avec le monde du théâtre. Vous aimez le texte, vous avez travaillé sur ce texte de Cyrano de Bergerac qui s'appelle L'autre monde où les États et empires de la Lune, vous en avez fait un spectacle. Et puis vous avez donc aussi travaillé Le bourgeois gentilhomme de Molière et Lully avec Catherine Hegel, François Morel et Benjamin Lazare pour Cyrano de Bergerac. Donc en effet, vous avez de nombreux liens avec le théâtre, la littérature, le texte, les orateurs. Alors, je vais finir ma grande diatribe hein, pour vous laisser parler, bien sûr. Vous avez aussi créé de nombreux concerts, conférences sur des sujets qui croisent musique et actualité. Et là, on va en venir à votre actualité particulière, en fait. La place des femmes dans la musique, les animaux et les compositeurs, les histoires de l'invention des instruments. Donc voilà ce qui anime vos conférences. Et cette année, vous avez créé une conférence qui s'appelle Anne Ford ou l'émancipation par la musique, une conférence musicale autour de la compositrice Anne Ford, qui est peut-être, en fait, pouvez-vous nous parler davantage d'Anne Ford, qui est cette compositrice et qu'est-ce qu'elle apporte de particulier dans cette Angleterre du XVIIIe siècle ?
Alors Anne Ford, oui, c'est une femme musicienne qui est née dans une famille assez riche. Donc a priori, dans les milieux riches, aristocrates, bourgeois, etc., on fait de la musique en amateur, mais jamais on ne gagnerait sa vie par la musique. C'est quelque chose qui n'existe pas. Les hommes peuvent le faire, mais pas les femmes. Et puis cette Anne Ford, c'est une forte personnalité. Comme elle vient d'une famille aisée, on lui fait donner une bonne éducation, donc elle apprend la musique. Mais dans le but, évidemment, quand on apprend à ses enfants à faire de la musique, c'est pour bien les marier. C'est pas pour qu'ils aillent sur des scènes, qu'ils montent sur des scènes et se produisent en public. Or, c'est ce qu'elle veut, Anne Ford. Et on a découvert son histoire parce qu'on a fait une grande série discographique chez Harmonia Mundi sur l'histoire de la musique à Londres au XVIIIe siècle. Et dans le dernier volume, qui va sortir en 2026, mais qu'on a enregistré déjà il y a quelques mois, eh bien, on a découvert cette personnalité qui joue des instruments qui ne sont pas forcément les instruments à la mode en Angleterre. Donc tout de suite, on l'a repérée parce qu'elle joue de la viole de gambe qui n'est plus à la mode. Elle joue de la guitare anglaise. La guitare anglaise, c'est un instrument, une sorte de sistre, en fait, que Benjamin a redécouvert. Du coup, il en a commandé une et il a appris à en jouer pour l'occasion. Donc, c'est l'instrument que jouent les dames à la maison. Et puis, elle chante et elle joue des vers musicaux. Et ça aussi, c'est une histoire passionnante qui croise l'histoire de la musique de vers, puisque c'est juste avant l'invention du glas harmonica de Benjamin Franklin. Et elle est une des dernières personnes à jouer de ça et à se produire en concert. Il faut savoir qu'elle va être vite concurrencée par d'autres femmes musiciennes sur le glas harmonica, qui est l'instrument moderne. En fait, les vers musicaux sont en passe de devenir ringards, on va dire. Et donc, c'est une des dernières à défendre ça. Et elle va se faire coiffer au poteau, en fait, par d'autres femmes qui, elles, viennent de familles de musiciens, donc qui sont poussées à faire de la musique par la famille et donc qui ont cet avantage sur Anne Ford, qui, elle, vient d'une famille où on ne pratique pas la musique en tant que professionnelle. Donc cette histoire, elle est très, très intéressante. En plus, c'est une histoire rocambolesque, parce que y a sa vie amoureuse aussi qui est haute en couleurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses et on avait envie de la raconter. Et du coup, on crée cette conférence qu'on crée aussi pour les scolaires, hein, parce qu'on fait un projet cité éducatif cette année à Orléans sur les femmes musiciennes. Donc on va aussi parler de ton histoire aux enfants et en même temps, on va pouvoir enfin raconter son histoire aux grands aussi à travers une conférence qu'on va donner dans le cadre de la Microfolie à Orléans, qui sera installée à Saint-Marceau. Ça sera le 13 avril à 15h. Donc j'espère que ça va intéresser beaucoup de gens de découvrir cette personnalité qui a eu un certain courage, hein, parce que organiser des concerts, elle organisait ses concerts toute seule, donc il fallait qu'elle fasse sa promotion, sa pub, qu'elle loue une salle, parce qu'évidemment, il faut que ça soit rentable, donc il faut que les gens viennent, il y a une concurrence féroce de partout, voilà, donc tout ça, on va le raconter dans cette conférence.
Alors, c'est passionnant. Moi, j'ai plusieurs questions là qui arrivent. London, circa 1740, Handel's Musicians, c'est en effet la série de disques que vous avez réalisé pour Harmonia Mundi en août dernier. C'est une époque foisonnante. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet intérêt pour Londres, pour la musique particulièrement à Londres à cette époque-là?
Alors, on s'est dit avec Benjamin qu'il y avait un véritable manque dans l'histoire de l'Angleterre, l'histoire musicale. Quand on parle de l'Angleterre au XVIIIe siècle, ben, tout le monde pense à Handel. Voilà, ça c'est le compositeur que tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Handel ?
D'ailleurs, Handel n'est pas anglais, il est allemand.
Il est allemand.
Mais c'est le grand compositeur anglais du XVIIIe siècle.
Il va devenir le compositeur un peu national, l'emblème de la musique anglaise, alors que, comme dit Benjamin, effectivement, il est allemand et il se fait connaître avec de la musique italienne. Et ça résume bien, en fait, la musique anglaise à l'époque, qui est une musique assez européenne. Et alors évidemment, là, on en est au troisième volume, 1740. Ça veut dire que cette série, on a commencé à y penser il y a longtemps. Et c'est le Brexit qui nous a un peu mis le pied à l'étrier, finalement, puisque on se disait avec Benjamin, quand même, c'est incroyable. L'Angleterre, ça, c'est toujours un pays insulaire, pas ouvert sur l'Europe. Mais pourtant, au XVIIIe siècle, il y a eu cette période d'ouverture qui s'est ressentie dans plein de choses. Hein. Londres a été une grande capitale culturelle européenne. Et ça se ressent évidemment aussi dans la musique, avec une arrivée massive, on peut dire une grande immigration de musiciens, surtout italiens et allemands. Il faut dire qu'à l'époque, le souverain est un souverain allemand, puisque la dynastie royale des Stuarts, qui était anglaise, est arrivée à sa fin, sans héritier. Et puis le dernier Stuart, on n'en veut pas parce que c'est un catholique et que les Anglais sont traumatisés par les catholiques, ils veulent absolument un protestant. Donc ils vont aller chercher un roi, un cousin allemand, qui d'ailleurs est très peu intéressé par l'Angleterre. Il parle à peine anglais. Son fils, c'est pareil. Donc ils vont se succéder, hein, Georges Ier, Georges II, Georges III. Georges I et II ne parlent pas du tout l'anglais. Ils sont souvent sur le continent en Allemagne. Ils s'intéressent peu à la politique anglaise qui est menée par un premier ministre anglais qui fait un peu ce qu'il veut. Et donc, ils ne sont pas du tout intéressés par les arts non plus en Angleterre. Ce qui fait que tout va se financer de manière privée, un peu comme aujourd'hui. C'est pour ça que ce qui nous intéressait aussi, et c'est là que ça croise toutes les choses auxquelles on peut penser aujourd'hui pour les financements de la culture, etc. Tout se passe en Angleterre déjà comme ça au XVIIIe siècle. Il faut se chercher de l'argent pour vivre. Alors, il y a Händel, notamment. Händel, c'est une véritable machine à cash parce qu'il il dirige un opéra. Donc, il faut que ça tourne. Il faut qu'il paye un orchestre, etc. Donc, tout marche aussi parce qu'il y a Händel qui va avoir la concurrence aussi de d'autres... il va y avoir un opéra concurrent à un moment. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant, l'histoire de l'Angleterre à cette époque. Et ça croise aussi l'histoire sociale, puisque l'opéra, c'est en italien, ça parle de héros, de la mythologie, etc. Et la classe moyenne anglaise se sent exclue, en fait, de ces divertissements-là qui coûtent très cher. Un ticket d'opéra, ça coûte cher. Donc, évidemment, il y a un tri déjà à l'entrée. Les sujets n'intéressent pas la classe moyenne. C'est en italien, les gens ne comprennent même pas de quoi ça parle. Et donc, on a envie aussi, à un moment, d'avoir de la musique pour tous. Et c'est là qu'on va faire appel à d'autres compositeurs qui vont composer en anglais, qui vont investir d'autres lieux culturels, comme les jardins, par exemple, les grands jardins à Londres. Et c'était un peu le propos de 1740, de montrer aussi cette montée de la classe moyenne, du patriotisme et de rejet de tous ces musiciens italiens qui vont jouer de l'opéra, etc.
Oui, d'ailleurs, il n'y a pas que le patriotisme anglais. Il y a aussi les autres régions du Royaume-Uni.
Oui, alors ce disque parle aussi de l'Écosse, puisque l'Écosse sort un peu son épingle du jeu à cette époque-là, grâce aux musiciens italiens, entre autres, qui vont découvrir la musique écossaise et qui vont dire « mais cette musique est formidable, il faut la faire connaître ». Et un musicien écossais va réussir, qui s'appelle James Oswald, on a enregistré pas mal de pièces de lui dans le disque, va réussir à la mettre à la mode à Londres, alors que pour les Anglais, l'Écosse, c'est un vague pays au loin, on met des jours à y arriver, c'est le no man's land quoi, pour les Anglais. Et donc d'arriver à mettre l'Écosse déjà à la mode, parce qu'elle sera bien sûr à la mode après avec Walter Scott, etc. Là, on reparle de littérature, mais beaucoup d'écrivains écossais vont faire connaître la musique. Haydn, quand il ira à Londres, va s'intéresser à l'Écosse. C'est grâce à cette mode déjà qui s'implante dès les années 40 dans les salons londoniens.
Eh bien, on va écouter le concerto numéro 6 pour German Flute. For German Flute, opus 2, Adagio et Grazioso. En effet, premier extrait de votre disque, London Circa 1740, Handel's Musician. On revient pour après parler de pédagogie avec vous, mais on a déjà beaucoup abordé la pédagogie. Thank you. Alors, la musique à Londres pendant les années 1740, autour des musiciens de Handel. Alors, vous le disiez, voilà, et vous avez choisi en effet de nous faire découvrir les musiciens de Handel, ce musicien allemand, avec voilà, le succès qu'il pouvait avoir en effet à Londres à cette époque-là. On se pose la question, bien sûr, de savoir comment vous vous documentez pour eh bien, en savoir autant autour de la musique. Vous vous y intéressez particulièrement et vous vous intéressez particulièrement pas à la musicologie, mais plutôt à l'histoire et le reflet, en effet, que peut en faire la musique. Alors, comment vous vous documentez ? Beaucoup de livres, des thèses, vous disiez.
Oui, alors, il y a beaucoup de manières, hein, de se renseigner. D'abord, il y a beaucoup de bibliothèques aujourd'hui qui mettent beaucoup de documents historiques en ligne. Donc ça permet de gagner du temps. Les universités anglo-saxonnes mettent en général à disposition les thèses de doctorat, souvent gratuitement, pas toujours, mais souvent gratuitement, ce qui donne en fait une quantité de documentation très pointue, relativement facilement accessible. Il y a des discussions avec des musicologues, bon, différents canaux, hein, tout est bon pour se renseigner. Et puis, tout ce qui est les ouvrages sur la vie sociale et politique à ces époques-là, hein, qui nous intéressent beaucoup.
Et aussi les romans qu'on a écrits à l'époque, qui sont des sources. Par exemple, pour Anne Ford, il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'était qu'elle avait... Elle a écrit un livre, d'ailleurs, qu'on a réussi à récupérer. Mais aussi, elle avait une histoire avec un noble. Enfin, une histoire compliquée, parce qu'elle a cru que... Enfin, elle pensait que c'était un comte qui laisserait tomber sa femme, le comte étant marié. Le comte, enfin, je pense qu'elle lui avait un peu tapé dans l'œil, mais bon, lui, il était quand même... il se disait, faut pas qu'elle me casse trop les pieds, parce que je veux pas trop d'ennuis. Et donc, après, elle fait éditer un pamphlet contre lui, en résumant tous les griefs qu'elle a contre lui. Carrément, ça apparaît dans la presse et tout, c'est édité. Et l'autre lui répond par la même voie, donc on a des renseignements comme ça. Puis il y a beaucoup de... La presse est très active à Londres, à cette époque-là, donc on a beaucoup d'infos.
Très moderne, en fait.
Voilà, d'annonces de concerts, donc on sait exactement ce qui a été joué, qui a fait quoi. Voilà, il y a vraiment une dynamique de la presse qui nous permet aussi de suivre l'actualité, finalement.
Une liberté de la presse qui est très forte.
Oui, Londres, c'était... Enfin, l'Angleterre, c'était... On avait une liberté d'expression que les Français enviaient. D'ailleurs, un Voltaire en parlera, etc.
Alors, la pédagogie est au cœur de votre démarche artistique. Chaque année, vous proposez de nouveaux projets de transmission et de pédagogie originaux. Vous venez d'ailleurs aujourd'hui dans le cadre des ateliers de musique ancienne d'Orléans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces ateliers de musique ancienne ? Vous venez avec des instruments, vous faites découvrir les instruments au public. Et puis également, c'est un projet que vous menez avec le conservatoire, avec les musiciens du conservatoire. Pouvez-vous nous parler davantage de ces ateliers ?
Alors, d'abord, ce qui aura lieu cet après-midi, en fait, c'est un concert. Donc, c'est le résultat du travail que nous avons fait avec les ateliers de musique ancienne que nous avons créés il y a quelques années. Alors, en fait, dans les ateliers, il y a à la fois quelques élèves du conservatoire et des musiciens amateurs. Et en fait, c'est un enseignement qui vise à compléter, disons, l'enseignement proposé par le conservatoire, notamment pour nos instruments qui n'y sont pas enseignés, et puis un travail de musique de chambre qui soit ouvert notamment aux musiciens amateurs, puisqu'en France, on a remarqué depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on en parle entre nous, que la pratique amateur pour les musiques classiques et musiques anciennes n'est pas très favorisée par l'enseignement. En fait, au conservatoire, traditionnellement, disons, on favorise beaucoup une professionnalisation ou viser à professionnaliser des élèves. Alors, c'est des choses qui changent petit à petit, puisque on se rend bien compte que c'est pas tenable. Il faut que la musique soit partagée davantage par tout le monde. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir donner une occasion à ces musiciens amateurs de vraiment progresser donc dans la durée et pas simplement de faire ce qu'ils connaissent déjà éternellement. Mais voilà, donc chaque année, nous avons des thématiques. Nous essayons,
aussi par des projets de concerts comme cet après-midi. Mais on a aussi travaillé avec des chœurs amateurs pour monter un programme. On a fait un gros programme autour de la musique allemande à l'automne, qui a bien marché. Et ça permet aussi à des gens qui travaillent souvent tout seuls chez eux, il faut s'imaginer ce que c'est de travailler tout seul, de pouvoir se réunir et de alors créer un programme avec un chœur et tout ça, c'est pour eux, c'est juste du bonheur. Quoi.
Oui. Il s'agissait de l'ensemble vocal Anonymous, dirigé par Anne-Cécile Chapuis, et qui donc ça a donné l'occasion à nos élèves de faire un programme de musique allemande du 17e. Ce que la plupart n'avaient jamais fait dans cette situation avec de la musique vocale.
Et puis c'est des effectifs qui sont gros, donc c'est des choses qu'on ne va jamais faire dans sa vie. Si on est amateur, on va peut-être jouer à deux, à trois, mais faire un grand programme comme ça, nous, ça nous arrive tout le temps dans notre vie de musicien professionnel. Mais l'idée, c'était de permettre aussi à des musiciens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir découvrir ce que c'est que de jouer en grande équipe. Et c'est toujours des moments... émouvant.
Et alors, combien vous serez cet après-midi ?
Cet après-midi, on sera une dizaine, je pense.
Une dizaine, quand même. Ça va tenir dans la section musique, il va falloir bouger.
Oui, alors
les
on
ne
joue
étagères.
Pas tous en même temps, parce qu'il y a des groupes de plusieurs tailles, etc. Et puis, l'idée, c'est aussi de présenter ces instruments que les gens ne connaissent pas forcément, les gens qui viendront à la médiathèque, parce qu'ils sont beaux, ils sont rares, ils ont des sonorités intéressantes. Donc, on va aussi les présenter les compositeurs qu'on va jouer, évidemment. Mm-hmm. C'est de faire aussi de la pédagogie pour les gens qui seront de passage.
Voilà, donc vous venez avec le théorbe, j'imagine, la viole de gambe et peut-être d'autres instruments que nous ne connaissons pas ou peu.
Alors, il y aura des flûtes à bec. Alors, les flûtes à bec, on a toujours ce très mauvais souvenir de collège sur la flûte en plastique.
C'est fini, apparemment, ils ne font plus ça au collège.
C'est l'occasion de partir sur...
des bonnes bases.
Des bonnes bases, voilà. Et de montrer que la flûte à bec, ça a été un instrument important. D'ailleurs, en Angleterre, dans cette série Londres, elle est à l'honneur sur les disques du début, parce que c'était l'instrument des amateurs. Il était plus facile à jouer que le violon. Donc, c'était une manne aussi, parce que quand on parle de l'histoire anglaise, c'est beaucoup de l'économie. C'était une manne pour les éditeurs de musique, beaucoup d'amateurs, donc ça veut dire qu'on peut vendre plein de partitions. Et c'est aussi, il y a eu beaucoup d'arrangements d'œuvres orchestrales pour jouer à deux flûtes à bec et un clavecin, etc., pour jouer à la maison, en petite équipe. Donc, des choses... idéal pour nos ateliers de musique ancienne.
Voilà, et puis il y aura la guitare baroque aussi, l'après-midi.
Alors, on parle toujours de pédagogie, en fait, puisque vous êtes enseignants aussi tous les deux de musique, hein, bien sûr, via ces ateliers ou même, en fait, dans d'autres contrées pas si lointaines. Vous avez, l'année dernière en particulier, ou l'année précédente, parce que je m'y perds, et on s'était vu en effet il y a 2 ans apparemment, pour parler du carnaval des animaux en péril. Vous avez aussi déployé toute une série en fait d'actions pédagogiques autour de ce spectacle. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
Oui, alors ça, c'est aussi une envie qu'on a eue avec Benjamin de travailler sur la musique ancienne, certes, mais aussi de donner du répertoire contemporain à nos instruments pour qu'ils aient aussi une vie dans ce 21e siècle. Et donc, on travaille avec un compositeur qui est venu d'ailleurs ici à la médiathèque parce qu'on avait commencé... toute cette recherche sur les liens entre la nature et la musique par un projet sur les oiseaux. On avait donné une conférence à la médiathèque et puis ensuite Vincent Bouchot, le compositeur avec qui on travaille, était venu pour parler du lien entre les compositeurs et les oiseaux. Pourquoi les oiseaux ont tant fasciné les compositeurs. Et c'était l'occasion de découvrir un vrai compositeur en chair et en os, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est des gens en perruque qui sont morts il y a 300 ans, mais il y en a des vrais et qui sont accessibles aussi, parce que souvent il y a aussi cette peur de la musique contemporaine, parce qu'il y a des musiques contemporaines qui sont complexes, évidemment, mais lui il est toujours c'est un compositeur très accessible, donc on était contents qu'il vienne ici. Et puis donc après ce projet sur les oiseaux, on s'est dit... Comme on avait travaillé sur le carnaval des animaux de Saint-Saëns, parce que Vincent Bouchot nous avait fait des arrangements de poules et coqs, etc., on s'était dit, tiens, on pourrait travailler, inventer un carnaval des animaux en péril avec un choix d'animaux qui ne seraient plus les animaux bourgeois de Saint-Saëns, mais des animaux vraiment emblématiques d'aujourd'hui. Il y a des espèces qui sont soit disparues, soit en voie de disparition. Donc ça commence par un magnifique pangolin. Et puis il y a un dodo qui est un oiseau qui a disparu au XVIIe siècle, qui rejoint là un peu la musique baroque, qui fait le lien un peu avec nos instruments. Et puis il y a le concombre de mer. Enfin voilà, il y a toute une sélection d'animaux comme ça qui sont.
Le harfang des neiges.
Déclin, le harfang des neiges. Et d'ailleurs, on avait beaucoup travaillé avec les livres de la médiathèque, justement pour monter ce projet, parce que la documentation, elle est dans des lieux comme ça aussi. On n'est pas juste dans notre tête, mais on vient chercher des choses souvent en médiathèque.
Oui, vous avez l'air très attaché en effet à cette section musique et puis à tous les livres qu'on peut trouver ici pour vous documenter en effet. Voilà, le concert des oiseaux avec la réinterprétation ou libre complètement de Vincent Bouchaud du carnaval des animaux de Saint-Saëns, mais un carnaval des animaux en péril. On va écouter tout de suite le prélude « Tristesse du pangolin ». L'ensemble La Rêveuse est avec nous aujourd'hui. On vient d'écouter un extrait du Carnaval des animaux en péril, le prélude, Tristesse du pangolin. Florence Bolton et Benjamin Perrot, excusez-moi, sont là avec nous. On est toujours en direct de la médiathèque, médiathèque On Air, et eux, ils seront en direct tout à l'heure à 17h, ici au quatrième étage de C16. Oh, faut toujours que je me plante. Voilà, donc c'est le 17 février à 16h. Voilà, pour l'atelier de musique ancienne avec, en effet, les élèves du conservatoire. Ils viendront, en fait, restituer un petit peu le travail. Et pas que du conservatoire. Les élèves amateurs. Les élèves amateurs. Eh bien, on va à nouveau parler de pédagogie, puisque vous créez cette année, en mars prochain, dans le cadre d'une année qui est consacrée aux femmes musiciennes pour vous, vous allez créer en fait plusieurs projets. C'est ça. plusieurs projets, notamment avec l'écrivaine Emmanuelle Favier, une création autour du texte L'œil d'Artémisia, qui sera lu par l'écrivaine elle-même. Voilà, c'est un concert lecture que vous allez proposer à nouveau. Vous établissez des ponts entre littérature et musique. Alors là, le but, en effet, est de mettre en valeur le travail des femmes.
Oui, alors c'est vrai que c'est un très beau texte. Je ne sais pas si on peut le trouver dans les rayons, mais L'œil d'Artémisia, Emmanuelle Favier, donc, qui est un texte sur une peintre, femme, Artémisia Gentileschi, qui était... fille d'un peintre elle-même. C'est vrai qu'à l'époque, quand on voulait être musicienne ou peintre, enfin, des métiers artistiques, souvent les rares femmes qui exercent ces métiers-là sont des femmes issues de familles qui sont elles-mêmes musiciennes ou peintres, etc. Et Artémisia, évidemment, elle apprend la peinture avec son père. Donc c'est une peintre finalement assez connue maintenant, où on redécouvre le travail des femmes. Et ce texte d'Emmanuelle Favier est très beau. Il parle de son travail d'artiste peintre. Elle retouche un tableau de son père qui s'appelle La fuite en Égypte, qui se trouve au Louvre. Et donc c'est une petite collection dont j'ai oublié le nom de l'éditeur, mais qui fait écrire écrire des textes sur des tableaux qui sont dans des musées. Et donc ce texte est magnifique. Et Emmanuelle Favier avait envie, dans le cadre d'une résidence d'écrivain qu'elle fait autour de Nemours en Seine-et-Marne, d'avoir de la musique pour aller avec son texte. Et donc, c'était l'occasion aussi avec Benjamin, on a toujours trouvé, et on l'a expérimenté dans les textes de Cyrano de Bergerac, etc., que souvent, la musique, ça donne une intensité quand même aux mots. Et c'est toujours bien d'arriver à marier les deux ensemble. Et dans ce cadre-là, voilà, on travaille sur... Benjamin a trouvé le nom de la maison d'édition, c'est ça ? Alors... Maison de négoce littéraire, Malo Kirvan. Voilà, très, très, très jolie petite maison d'édition. Et donc voilà, on fait ce travail avec Emmanuelle Favier, qui j'espère pourra être, là c'est un premier essai, avec aussi un vidéaste qui va montrer la fameuse peinture La fuite en Égypte, pendant qu'il y aura le texte et la musique. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des projets comme ça, qui sont des projets un peu originaux, donc c'est pas évident dès que c'est pas un concert ou une lecture, voilà, ça sort un peu du cadre, c'est toujours plus compliqué à convaincre les gens de programmer.
Bah, disons que oui, dans les milieux du spectacle, quel que soit le milieu, ça, les choses fonctionnent un petit peu par niche, et dès qu'on est dans des formes un peu transversales, forcément c'est un tout petit peu plus compliqué de leur trouver une place.
Ouais. Donc là, voilà, ça sera un premier jet. Et puis, voilà, il y a ces conférences autour d'Anne Ford, donc certaines dans le cadre des cités éducatives. Et c'est intéressant d'en parler avec des enfants, parce que, justement, on ne se pose pas forcément ce genre de questions. Aujourd'hui, on est dans une société où n'importe qui peut aller au conservatoire, qu'on soit fille ou garçon, on peut jouer l'instrument qu'on veut. Mais finalement, dans ces époques-là, on ne jouait pas les instruments qu'on voulait si on était une femme. On avait droit à quelques instruments seulement, pour plein de raisons, et c'est assez passionnant. On n'avait pas non plus un accès comme ça à l'école, à la musique. Donc ça permet de parler de tout ça aussi, que les femmes n'avaient pas forcément accès aux mêmes choses que les hommes. Et ça, le fait qu'ils se posent ces questions-là dans ces âges à l'école maternelle, c'est pas mal aussi, ou à l'école primaire, c'est bien aussi, parce que finalement, on considère que voilà, c'est normal, mais c'est pas forcément normal, c'est une chance.
Et alors oui, c'est un projet qui est proposé dans le cadre du dispositif Cité éducative, qui est proposé par la ville d'Orléans, la préfecture du Centre Val-de-Loire et l'Éducation nationale, avec le Conservatoire d'Orléans, la Scène nationale d'Orléans, le Musée des Beaux-Arts et la Microfolie. Et justement, c'est un projet que vous menez auprès de 5 classes des quartiers prioritaires des quartiers de la Source et de l'Argonne. Ces élèves reçoivent la musique baroque. Comment, bien sûr, vous arrivez à les intéresser très facilement, j'imagine, parce que vous êtes passionnant. Mais quel est la réaction des élèves? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils aiment, en fait, dans ce que vous leur proposez?
Alors, on a de la chance de ne pas être tout seul dans ces projets, parce que, du coup, on a aussi donc, les enseignants et enseignantes qui sont forcément motivés par le projet. En général, on propose un dossier pédagogique pour qu'ils aient des pistes de travail, donc dès la rentrée. Et puis, on travaille aussi avec les dumistes, les intervenantes musicales en milieu scolaire. Et en fait, c'est une chance de les avoir. Et on choisit toujours, en fait, avant de proposer un projet, on veut être sûr que les dumistes travaillent avec nous, parce qu'elles vont vraiment être la courroie de transmission. En fait, elles vont faire tout le travail. Justement, on est toujours étonné avec Benjamin, parce que nous, on arrive, le projet commence en septembre, et puis nous, on arrive en novembre, décembre, ça a déjà commencé. Au moment où on entre dans la classe, les enfants sont là, oh, un théorbe, oh, une viole de gambe.
Oui, c'est assez étonnant.
Génial, quoi. Ça fait toujours plaisir, parce qu'ils ont déjà, voilà, elles ont déjà préparé le projet en amont. Et donc, pour nous, c'est facile, en fait, peut-être presque d'intervenir, parce que tout a été déjà
et alors,
préparé.
Ce sont des femmes, en plus.
Souvent des femmes.
Alors, elles. On dit elles, parce que oui, oui. Il se trouve qu'à Orléans, mais ça peut être aussi des hommes, bien sûr.
Ah, oui, il peut y avoir des hommes, mais à Orléans, c'est des femmes. Et donc, on s'arrange toujours. Voilà, s'il n'y a pas de dumiste, on ne fait pas le projet, parce qu'on sait que c'est vraiment le maillon très, très important de la chaîne, et que c'est grâce à elle aussi que le projet va bien se faire. Et en général, voilà, ça va être le projet de l'année. Les enseignantes disent, bon, ben voilà, on va travailler sur les femmes. Alors, nous, on avait notamment parlé d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, qui est peut-être une des femmes compositrices les plus connues aujourd'hui. Il y en a plein, mais plein qui ne sont pas connues. Un peu comme Händel tout à l'heure, qui prend toute la place. Quand on parle des femmes compositrices à l'époque baroque, voilà, il y a souvent le nom d'Elisabeth Jacquet de Laguerre qui ressort. Et les enfants étaient venus nous voir au Théâtre d'Orléans, où on avait fait un concert avec une chanteuse. Donc, ils étaient venus nous voir en répétition. Et la chanteuse, qui ne les connaissait pas, avait été impressionnée, parce que les enfants avaient tout de suite dit « Ah oui, c'est comme Elisabeth Jacquet de Laguerre ». Et alors, elle était là « Qu'est-ce que c'est que ces gamins ?» Donc, effectivement, ça va rester... ça va être une année vraiment où ils vont apprendre beaucoup de choses.
Je crois que ce qui est important, c'est que c'est un projet qui dure sur une longue période. Et du coup, ils ont le temps de voir un tas de questions autour du sujet. Et c'est une chose dont ils se souviendront toute leur vie, probablement.
Et c'est assez drôle, parce qu'après, ils nous envoient des dessins. Enfin, les enseignantes nous font parvenir. Et alors, ils dessinent tous les instruments, évidemment, sur les dessins. Et puis, c'est écrit... je rêve de jouer de la viole de gambe. Et puis ils disent, alors ça c'était vraiment mignon, parce qu'ils disent, ah c'était très bien, continuez comme ça, vous pouvez progresser, ou je sais pas, c'est drôle. Je trouve ça mignon comme tout, parce que je pense que c'est ce qu'on leur dit. C'est adorable, j'ai trouvé ça tellement beau.
Est-ce qu'ils pratiquent eux-mêmes les instruments durant justement ces moments?
Quelques élèves,
mais assez peu finalement.
En général, on sonde un petit peu, alors il y en a souvent quelques-uns qui font de la guitare.
Il y en a certains qui font les classes Demos aussi, mais ce n'est pas eux qu'on a forcément. Voilà, donc en général...
C'est guitare, piano peut-être, où il
n'y
a pas beaucoup d'instruments représentés.
Alors on va bientôt clore cette interview. Merci beaucoup. Vous êtes passionnant, je le redis et je le redis encore. Tous ces projets, en effet, méritent vraiment d'être découverts, vus, entendus. Vous travaillez auparavant avec un bus,
hein, oui, l'Opéra Bus,
pour faire des actions culturelles comme ça. Ça fait déjà quelques années. En effet, un bus aménagé en salle de concert mobile. Alors, ça permet aussi, en fait, d'aller à des endroits où il n'y a pas de spectacle, où il n'y a pas d'équipement, de salle de spectacle. Donc, vous vous souhaitez apporter la musique à tout le monde.
Oui,
tout le temps.
On s'est rendu compte, bah, notamment pendant cette tournée en bus qui avait fait quand même 4 semaines la première année, on était allé en grande ruralité dans la région centre et on s'était rendu compte que finalement la musique était là où il y a du monde, enfin dans les grandes villes, mais dès qu'on va dans les campagnes, il y a plus rien. En plus, souvent il faut faire 50 km pour avoir un cours, donc ça décourage les gens. Et l'idée c'était d'aller apporter la musique, surtout la musique ancienne. Alors là, les gens déjà ils ont peur du concert classique, mais alors la musique baroque, oulala, ça fait encore plus peur. Et donc l'idée c'était vraiment de montrer que c'est de la très belle musique, que ça plaît à tout le monde, que voilà, qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Et si on avait fait le concert dans une église, je pense que les gens auraient eu peur d'entrer dans l'église parce que ça, y a un côté un peu rigide, le cadre. Et là dans le bus, tout le monde voulait rentrer dedans évidemment pour voir comment c'était à l'intérieur. Donc une fois qu'ils étaient là, hop, on ferme la porte et ils sont obligés d'écouter de la musique. Mais les gens étaient contents, ils étaient ravis.
Oui, c'était vraiment...
Alors, on va écouter un dernier extrait de vos disques. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Le Rossignol et l'Empereur de Chine, ça, c'est un conte d'Anderson que vous avez mis en musique, qui est lu par Cécile Urbeau, qui est illustré par Anna Griot, et dont vous adaptez, en effet, l'imaginaire, le texte en musique. Voilà, un conte d'Anderson. On va écouter tout de suite Où l'empereur de Chine entend parler d'un rossignol. C'est le premier extrait de ce disque. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'histoire de ce disque, de l'histoire de cette idée de reprendre un conte et en faire quelque chose de musical pour le public jeunesse, j'imagine?
Oui, on est toujours content quand un projet qu'on crée peut avoir plein de ramifications. Donc là, ce projet des oiseaux, donc on a inauguré, parce que la première conférence, c'était ici, je me rappelle. Et donc, il y a beaucoup de ramifications dans ce projet. Il y a le spectacle jeune public, il y a un concert, un programme de concert sur les oiseaux, qui n'est pas forcément que de la musique baroque, puisqu'on a des arrangements de Camille Saint-Saëns, etc. Et puis, il y a des conférences musicales. Et donc... on a réussi à enregistrer la musique du concert chez Harmonia Mundi et à pouvoir enregistrer le spectacle qui tournait déjà depuis pas mal de temps chez Didier Jeunesse. Bon, on était ravis parce que du coup, ça permet aussi au spectacle d'avoir une vie. Parce qu'un spectacle, on va le jouer pendant un certain nombre d'années, mais après, c'est fini. Et donc là, il va avoir une vie et c'est un beau spectacle avec la musique de Vincent Bouchot. Et il y a de la musique baroque aussi, mais il y a de la musique de Vincent Bouchot qui est intéressante. Ça permet aussi chez Didier Jeunesse de faire un projet avec des instruments baroques parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et on a voulu mettre à la fin du livre-disque une petite 2 pages de présentation de ces instruments qui ont toujours beaucoup de succès quand on joue le spectacle. À la fin, les gens se ruent devant la scène pour voir les instruments de près. Donc il y a un côté... ils sont assez stars, hein, ces instruments. Oui. Tout le monde veut les voir. Donc on était content d'avoir ce petit focus sur eux aussi dans un livre pour enfants chez Didier Jeunesse.
Alors, vous pourrez découvrir cet après-midi, justement, vos instruments. C'est à 16h, au 4e étage de la médiathèque, l'atelier de musique ancienne par l'ensemble La Rêveuse. Venez nombreux. C'est gratuit, comme toujours, à la médiathèque. merci beaucoup, Florence Bolton. Merci beaucoup, Benjamin Perrault. Pardon. J'ai failli vous appeler Vincent Bouchot. Quoi. J'ai tout mélangé. Et on se laisse bien sûr en musique avec le Rossignol et l'Empereur de Chine.
Merci.
Merci.
Le Rossignol et l'Empereur de Chine. Conte réaliste se passant dans un monde imaginaire. Vous savez sans doute qu'en Chine, le souverain est un Chinois. et tous ceux qui l'entourent sont également des Chinois. Il y a bien des années, dans ce pays lointain, on pouvait admirer le palais de l'empereur, qui était le plus beau du monde. Entièrement construit de la porcelaine la plus précieuse et la plus fine, il fallait d'ailleurs y faire très attention. Dans le jardin, poussaient des fleurs merveilleuses. Et afin que personne ne puisse passer sans les remarquer, on avait attaché aux plus belles d'entre elles des clochettes d'argent qui tintaient délicatement. Vraiment, tout était magnifique dans le jardin de l'empereur. Et ce jardin s'étendait si loin que même le jardinier n'en connaissait pas la fin. En marchant toujours plus loin, on arrivait à une merveilleuse forêt où de grands arbres se miraient dans des lacs profonds. Au-delà, scintillait la mer où voguaient des bateaux de pêche. C'est ici que, tout en haut d'un arbre, vivait un rossignol. Il chantait si délicieusement que même le pauvre pêcheur, qui avait pourtant tant d'autres soucis en tête, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter et de l'écouter lorsqu'il sortait la nuit pour récupérer ses filets.
Comme c'est beau,
disait-il. Des voyageurs de tous les pays venaient dans la ville de l'empereur et s'émerveillaient devant le palais et son jardin. Mais lorsqu'ils entendaient chanter le rossignol, ils disaient tous
« Voilà ce qui est le plus beau !»
Alors c'était le premier extrait du rossignol et l'empereur de Chine par l'ensemble La Rêveuse et par également... eh bien, Cécile Urbeau, donc qui lit, Anna Griot pour l'illustration, un conte d'Andersen, tout ça sort chez Didier Jeunesse. Voilà, merci beaucoup la rêveuse.
Merci.
On vous retrouve cet après-midi à 16h au quatrième étage, ici, à la médiathèque d'Orléans, alors que Place d'Arc est en train de brûler.
C'est éteint.
On va faire un petit peu l'agenda de ce qui va se passer bientôt, les semaines suivantes à la médiathèque d'Orléans. Alors, vous êtes en plein pendant Doc en Doc en ce moment. Et ça tombe bien puisqu'on est au quatrième étage. Doc en Doc, c'est un concours de documentaires, c'est ça ?
C'est grâce à eux qu'on a la chance de pouvoir faire des projections, en plus de l'équipe qui fait des propositions formidables. Et donc là, on va avoir le 22 février à 18h30 une très très belle projection du film Retour à Reims de Jean-Gabriel Périot, mais qui est issu du texte de Didier Ribon et qui va être interprété par Adèle Hanel. Donc vraiment, venez nombreux parce que ça va être un beau moment de cinéma documentaire.
Il y a un autre concert autour du Carnaval des animaux que vous proposez le 24 février à la médiathèque Saint-Marceau. Alors c'est un concert projeté en fait c'est un concert de la Philharmonie en fait que vous pouvez retrouver donc à la médiathèque Saint-Marceau le 24 février. Le carnaval des animaux de Saint-Saëns, celui-ci, voilà, et pas celui de la rêveuse, de Vincent Bouchot. Donc vous retrouverez le 24 février pour fêter ce carnaval, ce mardi gras. Et puis il y a des rendez-vous jeunesse un petit peu partout, en effet, dans les médiathèques de l'agglomération d'Orléans. Et notamment, particulièrement à la médiathèque Maurice Genevoix, qui est toujours très axée jeux vidéo.
Oui, c'est un peu la spécialité, entre autres.
Voilà, donc il y a un tournoi Dragon Ball Z le 24 février à 14h30 où on va pouvoir incarner en effet les personnages et s'affronter sur Switch.
Oui, tout à fait.
C'est ça.
Oui.
Vous me reprenez parce que c'est pas
non,
ma partie.
Non, c'est parfait,
hein.
C'est parfait.
Des jeux vidéo grand écran le mercredi 28 février, toujours à la médiathèque Saint-Marceau. Et puis un tournoi, ça s'est passé, donc on ne va pas en parler. Voilà. Des matinées jeux vidéo qui sont organisées également. Voilà, donc vous avez tout un tas de choses autour du jeu vidéo, toujours médiathèque Maurice Genevoix. Des petites choses à faire pour les tout petits. Ton histoire en cadavreski, ça ce sera en fait à 16h le 21 février prochain. Créer des histoires drôles et loufoques à plusieurs mains. Ça ce sera ici à la médiathèque. Voilà pour les rendez-vous jeunesse. Il y en a plein d'autres. Donc je vous invite à regarder un petit peu le site web de la médiathèque d'Orléans ou bien en fait de consulter le visiteur qui est toujours disponible à l'entrée des médiathèques. Peut-être as-tu quelque chose à nous dire,
oui,
Aurélie.
Je voulais vous inviter tous à venir faire la fête à la médiathèque de l'Argonne, donc qui rouvre très prochainement. Et nous vous invitons donc le samedi 24 février à partir de 10h place Mozart à jouer, à écouter des histoires en kamishibai et à assister à un spectacle du loup en slip pour les 4-10 ans à 15h30. Ça va être génial. Et puis, on a aussi un mille et une histoire à 16h30. L'idée, c'est que vous redécouvriez ce lieu qui va réouvrir le 20... qui va rouvrir le 20 février, le 21 plutôt. Et voilà, on a vraiment envie de se réapproprier ce lieu et de faire se rencontrer le public à nouveau. Donc
venez nombreux. Non seulement la médiathèque, mais c'est aussi la mairie.
Oui, la mairie, la médiathèque est au-dessus et tout a été rénové. Donc voilà, il faut redécouvrir un peu le lieu avec cette occasion aussi de faire la fête pour l'inauguration le 24 février.
Très bien, merci Aurélie. On va se quitter. Peut-être que vous avez quelque chose à dire aussi au niveau de vos 30 ans, parce que la médiathèque fête ses 30 ans. Et ça, c'est bien, parce que nous aussi, à Radio Campus, on fête nos 30 ans cette année.
C'est vrai, ça, on est très jeunes.
On est vraiment liés, en fait, toujours.
Oui, on va avoir un temps fort en mai pour fêter nos 30 ans, mais toute l'année, on va un petit peu avoir des événements forts qui vont symboliser aussi cette naissance de la médiathèque centrale en 94. Et plus particulièrement en mai, où on est en train de vous concocter un programme qui sera à la fois autour de témoignages, de contes évidemment, et de lectures. Je pense que cette médiathèque, elle nous appartient à tous et qu'il va falloir qu'on en parle et qu'on la célèbre comme il se doit.
Alors, merci beaucoup, l'ensemble La Rêveuse. On le rappelle tout à l'heure à 16h ici. Merci Aurélie de nous accueillir toujours chaudement ici, médiathèque, derrière les vitres de la médiathèque. On va se quitter avec un dernier extrait de La Rêveuse et on va revenir à Londres. Mais ce coup-là, circa 1720 et pas 1740, avec Coralie's Legacy, le concerto numéro 2 for Six Flutes in D Major, opus 3. Adagio Allegro. Alors là, on n'est plus avec Handel.
Non, on est avec William Babel, qui était un grand admirateur de Handel, mais qui est resté dans son ombre, on va dire, et qui pourtant écrivait de la musique formidable. Alors, vous avez parlé de ce petit instrument, la Six Flute, qui est un instrument anglais, qui est une petite flûte. On va l'entendre, elle est très aiguë. Et on s'en servait notamment dans les entractes de l'opéra, puisqu'on jouait pendant qu'on changeait les décors et tout ça. Voilà, il y avait des petits moments d'entracte. Et comme tout le monde parlait fort, il y avait un boucan, un potin, comme c'est pas possible. Et donc, il fallait trouver un instrument qui passe par-dessus tout ça. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire jouer notamment ces petits concertos pour six flûtes, parce que ça perce les oreilles. Enfin, sur le disque, c'est très écoutable. Mais c'était voilà, des instruments qui arrivaient à passer au-dessus du brouhaha.
Et pourquoi six? C'est la sixième flûte?
Non, alors six, c'est une histoire de...
D'accord, que la flûte normale, elle est en fa. Et celle-là, elle est en ré, donc une sixte plus haut.
Mmh. Ouais, donc c'est un truc un peu technique. Mais du coup, elle est très aiguë. Et voilà, on l'a prise pour ça. On n'aurait pas joué un concerto pour basson, je ne sais pas quoi, qui serait resté englué dans le brouhaha. Mais là, il fallait vraiment un instrument perçant.
Voilà, on vous remercie encore une fois. À tout à l'heure, ici, à la médiathèque.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Thank you.